Mais c'est précisément Orange, donc qui était France Télécom, en 97, qui va mener une grosse opération de com pour vendre son téléphone Ola, pour ceux qui s'en souviennent, de couleur orange, qui était une édition spéciale à cette période de l'année, donc à Halloween.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Chaque année, entre le 31 octobre et le 2 novembre, trois fêtes liées à la mort se succèdent. Halloween le 31 octobre, qui célèbre le passage de la saison claire à la saison sombre. Le 1er novembre, qui correspond à la Toussaint, suivi de la fête des morts le 2 novembre. Ces quelques jours sont donc souvent synonymes de ténèbres, d'épaisse obscurité. Ils arrivent à ce moment de l'année où les températures baissent et le vent se transforme en gifle qui a le pouvoir de faire rosir nos joues. Mais là où règnent les ombres, souvent une bougie s'allume. Ça peut être celle que l'on place à l'intérieur d'une citrouille creusée, comme celle que l'on dispose sur un autel, à la mémoire de nos défunts. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Benoît, journaliste chez Science et Avenir et spécialisée en archéologie et en patrimoine. À notre micro, elle démêle le vrai du faux concernant les origines de Halloween. Mais avant ça, j'ai skypé un soir Taous Merakchi. C'était drôle pour nous de se reparler sur Skype parce que c'est ce qu'on a fait pendant des années quand on travaillait toutes les deux pour Mademoiselle. On a rigolé en se disant qu'on avait bien grandi depuis et fort heureusement. Avec Mortel, son podcast que vous pouvez également retrouver chez Nouvelles Écoutes, Taous lève le tabou qui entoure la mort en parlant de sa propre fascination pour le sujet et de sa propre expérience. Elle y évoque les discussions téléphoniques que l'on redoute quand on reçoit un appel et qu'à l'autre bout du fil, on nous demande de nous asseoir. Elle y raconte le deuil aussi, son poids et la mémoire de ceux qui nous quittent. J'ai commencé par lui demander quelle place a la nourriture dans le deuil. Parler de nourriture et de mort, ça peut sembler contre-intuitif au premier abord. On mange pour vivre, alors que vient faire la fin de la vie dans tout ça? En quoi l'expérience du deuil et le fait de se nourrir sont-ils deux sujets que l'on peut aborder dans la même conversation?
Alors, j'en étais convaincue avant de faire Mortel et je le suis encore plus depuis. Pour moi, on ne peut pas séparer le deuil et la nourriture. C'est même pas, on peut faire le lien, c'est que ça devrait être automatique. Et en fait, dans énormément de cultures, à travers les âges, à travers les continents, le lien entre funérailles et nourriture est hyper étroit. Et notamment aux États-Unis, dans les supermarchés, on peut trouver une préparation pour un gratin de pommes de terre qui s'appelle funeral potatoes. Genre, c'est des pommes de terre, gratin de pommes de terre, d'enterrement. C'est fait pour ça et c'est le genre de truc que tu sais, dans les films, on voit toujours quand il y a eu un décès, les gens qui défilent chez les endeuillés avec des gros plats à gratin pour leur donner de la nourriture. Ils en foutent plein leur congélo et leur frigo et ils en ont pour des semaines à tout bouffer. En France, on fait pas trop ça et je le déplore beaucoup. Mais voilà, il y a des plats spécifiquement réservés aux funérailles, que ce soit dans la culture occidentale ou autre. Il y a des cultures asiatiques où on laisse de la nourriture sur la tombe des morts pour les honorer. Il y a depuis la nuit des temps, les veillées funèbres, on les fait, enfin quand on rentre d'un enterrement de funérailles, on fait un grand repas et on partage de la nourriture. Enfin, c'est vraiment pour moi impossible de dissocier les deux et je trouve qu'en France, on a un peu perdu ce lien. On a un peu tendance à mettre ça de côté. À la limite, avec les plus proches, après un enterrement, on peut aller se faire un resto ou manger quelque chose chez l'un des membres de la famille ou l'un des amis. Mais c'est pas ritualisé, si tu veux. Ouais. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Alors que dans beaucoup d'autres cultures, et qu'elles soient occidentales ou autres, encore une fois, il y a cet automatisme de funérailles égale banquet. Égal buffet, égal chacun rapporte un plat et les endeuillés accueillent pour qu'on puisse manger chez eux et en même temps on leur rapporte aussi de la nourriture parce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent tout le boulot. Ouais. Donc, ça, je trouve ça extrêmement rassurant et réconfortant. Et moi, je sais qu'après l'enterrement de de mon grand-père, par exemple, on a fait un énorme couscous, on a loué une salle des fêtes et on a invité toutes les personnes, les voisins, tout ça, qui étaient venus à l'enterrement à se joindre à nous. Et parce que dans notre culture, quand il y en a pour 10, il y en a pour 15, il y en a pour 30, quoi. Donc, on a loué une salle des fêtes exprès et on a fait la fête. En fait, c'était comme si on avait fait un grand repas de Noël, sauf que c'était un enterrement. On a tous mangé ce couscous en famille avec les invités. C'est difficile de dire les invités quand on parle d'enterrement, mais bon, c'est
les personnes qui se sont réunies en tout cas. Ouais.
C'est comme les invités d'un mariage, mais enfin voilà, c'est pareil en fait. Pour un mariage, on fait un grand repas, on fait une réception. Ben là, c'est pareil pour les funérailles. Ça devrait être le miroir de ce genre de cérémonie, quoi.
Mais parce qu'en fait, factuellement, c'est aussi le moment du décès est aussi un moment qui réunit plein de gens d'une même famille ou des proches et des moins proches et des gens qui parfois se sont perdus de vue, mais qui ont en commun la personne qu'on est en train d'accompagner justement vers pas vers la mort, mais en tout cas à qui on est en train de dire au revoir. Et factuellement, du coup, ces gens se réunissent. Alors, tant qu'à faire et tant qu'à être réunis, autant avoir un moment pour échanger après et puis se remémorer aussi les bons souvenirs qu'on a avec la personne à qui on est en train de dire au revoir, précisément.
Bah oui, puis il n'y a rien de mieux qu'un grand repas pour ça. Enfin, les fêtes de famille, c'est des repas. Les retrouvailles de famille, c'est des repas. Les noces, les Noël, tout ça, c'est des repas. Et tout se place autour d'une table et c'est là qu'on est... qu'on est mieux pour être réunis parce qu'on est sûr d'être tous ensemble au même moment, de faire la même chose et d'être sur la même longueur d'onde. Quand on est tous en train de manger, on est tous en train de manger. Il y en a pas un qui fume une clope, l'autre qui joue au volet, l'autre qui lit un bouquin. Enfin, tu vois, c'est pas tous dans une maison de vacances où chacun fait sa vie. Là, c'est vraiment le moment de cohésion sociale et familiale ou autre. Hein, et en plus, bah, la nourriture a quand même un pouvoir réconfortant énorme. Ouais. Il faut pas nier, quoi. Et surtout, quand on est endeuillé, on n'a pas la force de faire à manger ni de manger parfois. Et c'est dans ces moments-là où je pense qu'il faudrait qu'on rende plus normal en France d'apporter de la nourriture ou de venir cuisiner pour les gens qui sont endeuillés. Parce que moi, c'est un truc qui m'a vachement manqué, parce que c'est ce que je dis dans Mortel, c'est je m'attendais à voir défiler des gens avec des plats à gratin et il n'y a personne qui est venu m'apporter ne serait-ce qu'un McDo, quoi. Mm-hmm. C'est pas juste. Mais en fait, non, c'est juste que c'est pas culturel. Ça nous ressemble pas. Ça paraît étrange de dire « Ah, je vais aller chez cette personne et je vais lui apporter des macaronis au fromage. » Ça paraît un peu intrusif parce qu'on fait du deuil un truc tellement solitaire, tellement tabou et tellement intime qu'on s'imagine pas s'introduire à ce point dans l'intimité de quelqu'un.
C'est vrai, t'as raison.
Parce que c'est très intime aussi d'apporter de la nourriture ou de cuisiner pour quelqu'un. C'est un geste hyper intime.
Effectivement, je pense que ça se joue à ce niveau-là, un peu comme quand, finalement, pendant des années, les gens n'avaient pas encore intégré que quand tu viens d'être parent, quand tu rentres à la maison, t'es potentiellement trois, alors que t'en es parti, t'étais deux, et ben forcément, ça bouscule tellement de nouvelles choses aussi dans ta vie, t'as moins le temps de cuisiner. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, on lit en fait que une bonne façon de soutenir des jeunes parents, c'est de leur amener à manger. Et ben t'as raison. De la même façon, on devrait effectivement le faire aussi pour les personnes endeuillées, quoi, leur dire je t'oublie pas et regarde en fait, je sais que pleurer ça creuse et.
Mais c'est marrant parce que justement quand j'ai accouché, on a plusieurs de nos amis qui nous ont dit faites-vous offrir des repas ou alors vous nous dites on vous fait livrer un truc quand vous voulez et ça a paru plus normal que de dire ça à quelqu'un qui est endeuillé en fait. Parce que, mais en même temps, c'est normal, tu vois, tu te dis réjouissance, fête, on fait livrer un burger, alors c'est plus léger que dire « Ah, mince, t'as perdu ton père, tu veux un McDo, un KFC, un Viet C'est difficile d'introduire ce genre de concept-là quand ça sort de nulle part et quand c'est pas une habitude reconnue.
Ouais, c'est vrai.
Et après, voilà, ça se fait au fur et à mesure, et je pense que si je suis confrontée à l'avenir à ça, dans mon entourage, si j'ai des gens qui sont endeuillés, je vais tenter, ne serait-ce que de leur poser la question, de dire est-ce que tu veux que je vienne te cuisiner quelque chose, est-ce que t'as faim, est-ce que t'as envie d'un plat réconfortant, essayer de rajouter ça à ma collection de trucs que tu fais pour réconforter les gens en deuil, quoi. Mm-hmm. Je me suis vachement corrigée en faisant Mortel et en passant moi-même par le deuil. C'est là que tu te rends compte qu'en fait tu faisais tout de traviole, parce que comme le dit Christophe Fauré dans l'épisode sur le deuil, le psychiatre spécialisé en rupture de vie, là, Personne n'apprend le deuil, à part quand on y est confronté. Et du coup, depuis, j'ai appris pas mal de choses. Et je pense que ça fait partie des trucs que je veux intégrer aussi à ma nouvelle façon de gérer le deuil, tant pour moi que pour les autres, quoi.
Une attention supplémentaire, alors. Une attention qui se font aussi dans la vie quotidienne, parce que dans tous les cas, manger, il faut le faire un minimum pour avoir de l'énergie. Donc du coup, c'est tout de suite penser aussi au quotidien, au confort de la personne, avant de penser aux mots qui peuvent réconforter.
Oui, parce qu'en plus, je trouve que c'est aussi une très bonne façon de contourner ce truc qui sidère les gens. En fait, ils ont tendance à s'éloigner des gens qui sont en deuil parce que ça fait peur et parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils ont trop peur d'être maladroits, de marcher sur des œufs, de ne pas dire la bonne chose ou de répéter sans arrêt « Ah, c'est dur, mais ça va aller ». Là, il n'y a rien à dire. Tu fais à manger, tu tiens compagnie à la personne. Si elle a envie d'en parler, elle en parle. Si elle n'a pas envie d'en parler, elle n'en parle pas. Peut-être que vous regardez un dessin animé, peut-être que vous regardez un film d'horreur, peut-être que vous regardez dans le vide, peu importe. Mais en tout cas, il y a un truc de communication non-verbale qui se fait à travers la nourriture qui peut être intéressant à explorer pour ceux qui ont le plus de mal justement à faire ces démarches d'accompagnement de deuil, quoi.
Il y a quelque chose de très pragmatique, en fait, avec la nourriture. Je pense à ces fois où, après un enterrement ou une crémation, peu importe, il y a toujours un petit moment où on casse la croûte. Et pour moi, ce moment, précisément, c'est souvent là qu'on arrête enfin d'avoir les bras ballants, qu'on s'active un peu pour manger, on casse notre posture, on discute avec les autres, on a séché nos larmes aussi. Et c'est le moment où on se remémore les bons souvenirs liés à la personne.
Ah, mais c'est ça, ça te détache complètement de l'acte physique du deuil et de la cette fameuse sidération et de l'accablement et tout ça. T'es occupé à faire autre chose qui est vitale et qui nécessite que tout ton corps soit impliqué. Et du coup, bah, ça libère. Et en plus, pour le coup, culturellement, en France, on vit pour la bouffe. Et la bouffe nous fait vivre et nous libère. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ces histoires de cohésion et tout ça. Quand on a besoin de parler avec quelqu'un, on va se faire une bouffe, quoi.
Ouais.
C'est quand même hyper pratique. Et ça, enfin, je sais pas. C'est à la fois très commun et très banal de manger et à la fois très intime parce que t'es dans une position de vulnérabilité un peu, quoi.
Oui, complètement. Oui, tu portes des aliments à ta bouche, tu es en train de récupérer des nutriments. Enfin, il y a quelque chose de très connecté à la vie. Mais en même temps, c'est très beau que ce soit encore quelque chose de présent aussi dans la mort. Au Vietnam, par exemple, et même ma mère fait ça en France, on fête, entre guillemets, avec des guillemets, mais on célèbre les anniversaires de mort de mes grands-parents. Et donc, voilà, de la même façon qu'il y a leurs anniversaires, il y a aussi leur date de mort. Et chaque année, donc, le même jour, on dispose sur la table leurs portraits, donc dans des cadres. Et tout autour, ma mère va mettre des plats qui correspondent souvent à des plats qu'ils aimaient manger. Tout ça avec de l'encens piqué dans des petits verres avec du riz à l'intérieur. Et ça choquait, enfin, en tout cas, ça étonnait mes camarades de classe quand j'étais plus jeune parce qu'ils avaient l'impression que c'était la fête. Ce qu'on mettait à manger. Mais non, c'était pas du tout se réjouir de la mort de quelqu'un, c'était penser chaque année à cette personne à travers la nourriture.
Ah, mais c'est vraiment la différence entre fête et célébration, quoi. Tu peux célébrer quelqu'un sans que ce soit la fête.
Oui.
Et je trouve ça vachement mieux, et c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup d'autres cultures que la culture occidentale. Je trouve ça vachement moins morne que notre Toussaint pourri où à chaque fois, il fait moins 40 000 degrés, il pleut, il fait moche, et tu vas mettre un vieux bouquet sur une tombe. Alors, c'est important aussi hein, de visiter les tombes et mettre des bouquets et tout ça. Je trouve que c'est un beau geste, mais il manque quelque chose de festif, quoi. Il manque quelque chose de réconfortant. J'ai l'impression qu'on est très dans l'espèce de culpabilité judéo-chrétienne qui caractérise la France, de « il faut qu'on souffre, il faut que ce soit morne, il faut que ce soit dans la douleur et dans l'abnégation et tout ça ». Et au bout d'un moment, je me dis « mais en fait, franchement, imaginez-moi mes proches me pleurer et me célébrer entre guillemets comme ça, ça me fout un cafard monstrueux, quoi.
Ouais.
Je trouve, enfin, faites un pique-nique sur ma tombe, je m'en fous. Baiser dessus même, je m'en fous. S'il vous plaît, faites quelque chose de cool, faites-vous plaisir, associez cette douleur à quelque chose de positif pour qu'au bout d'un moment, la balance s'inverse et que le bonheur de se souvenir de moi surpasse la douleur de m'avoir perdu. Tu vois ce que je veux dire?
Mais ouais, totalement.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'anniversaire de tes grands-parents, de la mort de tes grands-parents, t'es presque contente, entre guillemets, qu'il arrive, parce que c'est synonyme d'un moment de cohésion, d'un bon repas, d'un machin. C'est une belle occasion. C'est pas un truc de « Oh putain, il faut encore qu'on aille au cimetière, fait chier ». Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, vaut le coup d'être repensé sur notre vision du deuil et de la célébration des morts, parce que ouais, je trouve que ça fout le cafard, quoi. Justement, on n'arrête pas de dire « Oui, la mort, ça fait peur, la mort, c'est triste. » Bah ouais, mais en même temps, c'est de notre faute, quoi. On n'en fait que quelque chose de triste, de lourd à porter tout le temps. C'est ouais. Bon, quoi. Lâchons-nous un peu. Oui, on peut être triste, on peut être déprimé, on peut en souffrir terriblement, mais il n'y a pas que ça, quoi.
Oui, on peut aussi se donner les moyens, céder un peu de... pour voilà, ne pas faire de ce moment le moment le plus terrible du monde, mais sans que ça veuille dire non plus nier la tristesse qui t'envahit forcément quand tu perds quelqu'un.
Oh oui, c'est ça. C'est pas faire semblant en disant « Non, mais tout va bien, regardez, on fait la fête. » Alors qu'à l'intérieur, t'es en train de pleurer ta race. On peut faire les deux. On peut pleurer dans son assiette aussi. Hein. Ça me fait penser à cette scène dans True Blood de Suki qui retrouve la dernière part de tarte de sa grand-mère après sa mort et qui la mange et qui se met à chialer. Et c'est là, en fait, que sa douleur se débloque et que la sidération se lève. Et qu'après la mort de... Parce qu'elle passe plusieurs jours après la mort de sa grand-mère à être complètement... à ne rien ressentir. Et les gens lui reprochent de ne pas avoir une douleur visible. Et en fait, c'est toute seule dans sa cuisine le soir, quand elle mange la dernière part de tarte préparée par sa grand-mère, que là, il y a quelque chose qui se lâche enfin et qu'elle chiale en mangeant sa tarte. Et c'est un moment merveilleux, tu vois.
Ah ouais, ouais, les sens qui sont bousculés et puis tout à coup elle réalise un peu ce qui se passe. Mais c'est drôle que tu parles de ça, de cette séquence, parce que justement je voulais qu'on revienne ensemble sur l'épisode 4 de Mortel, dans lequel tu donnes la parole à ton amie Adriana. Est-ce que tu peux nous raconter en fait, enfin en tout cas.
C'est marrant parce que c'est justement avec elle qu'on avait évoqué cette scène de True Blood en miroir avec son histoire à elle. Elle a donc perdu sa grand-mère et elle l'a veillée avec sa mère. Donc dans la maison de sa grand-mère, elles ont veillé le corps pendant plusieurs jours avant l'enterrement. Le corps est resté à la maison. Il y avait un mec des pompes funèbres qui venait tous les jours pour faire la toilette du corps, etc. Et comme c'était une grand-mère italienne, dans la pure tradition des grand-mères italiennes, son congélateur et son frigo étaient pleins à craquer de plats tout faits. Parce qu'elle passait son temps à cuisiner et que c'était son langage d'amour, en fait. C'était comme ça qu'elle communiquait son amour. Et du coup, Adriana et sa mère ont passé les jours qui ont précédé puis qui ont suivi l'enterrement à tout vider et donc à tout manger. Et à chaque fois qu'elle mangeait un nouveau plat, c'était de nouveau ressentir ce bonheur de manger quelque chose préparé par la grand-mère qui n'était pourtant plus là, mais il y avait quand même cette même sensation, ce même plaisir retrouvé de « Ah, les bons petits plats de ma grand-mère », ce qui permet une transition vachement plus douce. Et une fois qu'elles ont fini de vider le congélo et que la grand-mère a été enterrée, eh ben ça y est, la page était tournée, on passait à autre chose, on passait à une autre étape du deuil et on reprend le cours de sa vie, quoi. Mais ça a permis de faire une vraie transition douce, parce que, tu vois, notamment je pense au boulot, quand t'es employé, quand t'es salarié, quand tu perds un parent, t'as 3 jours, je crois, de congé. C'est rien du tout. C'est même pas le temps qu'il faut entre le moment où la personne décède et le moment où elle est enterrée. Parfois, ça prend plus de temps que ça, quoi. Et ouais. On s'attend à ce que ta vie reprenne au bout de 3 jours, alors que c'est complètement aberrant. Et là, elles ont eu la chance de pouvoir prendre le temps vraiment de faire cette transition pour ensuite entamer le reste de leur deuil dans leur vie quotidienne, ce qui n'est pas non plus facile, hein, mais au moins, voilà. Elles l'ont vécu comme quelque chose de plus doux et elles en ont un souvenir merveilleux, quoi.
C'est hyper poétique, en fait, parce qu'on ne sait même pas si c'était quelque chose de voulu par sa grand-mère, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qu'elle a pu laisser aux vivants qui lui ont subsisté, quoi. C'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment un beau geste d'amour et c'est... Ça fait partie aussi des choses dont je parle beaucoup dans Mortel, que ce soit le podcast ou le livre qui va sortir bientôt là. L'importance, nous vivants, et ça peut être des détails comme ça, parce qu'on pense toujours testament, argent, bien matériel et tout ça. Et en fait, il y a plein de façons de se rappeler au bon souvenir des gens après notre décès et qui peuvent faire énormément de bien, comme justement, voilà, si les gens ont l'habitude de manger un certain plat ou une certaine variété de recettes de notre part, en laisser pour pouvoir leur permettre, laisser des restes pour pouvoir leur permettre de revisiter ça. Ça peut être aussi noter toutes les recettes et faire un livre de recettes familiales. Ça aussi, c'est un truc qui se fait dans d'autres cultures, notamment des cultures asiatiques. Je me souviens plus exactement où, je crois que c'est en Thaïlande, de faire son propre livre de recettes familiales qui se transmet après la mort, où justement, tu laisses l'occasion aux gens de refaire ces recettes-là et de revisiter toute ta vie les bons petits plats de la personne que tu as aimé. Donc tu peux laisser ce genre de traces, tu peux laisser des enregistrements audio, tu peux laisser des vidéos. Enfin, y a tellement de façons de préparer l'après pour que ce soit plus doux pour les personnes qui restent. Et je trouve qu'on n'aborde pas assez ces questions-là. Et ça passe effectivement aussi par la nourriture, parce qu'on se dit, quand je serai mort, je ne pourrai plus lui faire à manger. En fait, si, un peu.
Ouais.
Pas tout à fait comme avant, mais un peu quand même.
C'est quoi que tu ferais à toi si tu devais laisser à manger après ton passage sur Terre?
Je suis pas une grande cuisinière, du coup, j'avoue que je sais pas trop. Je pense qu'il me faut, il faut que tu me laisses encore quelques années de voir justement quel genre de mère je deviens pour ma fille et quel plat je lui fais et qu'est-ce qu'elle identifie, elle, comme étant les plats qui sont les plats de sa mère. Parce que là, pour l'instant, je fais des recettes pour mon mec et moi un peu à l'arrache, mais rien de très... Il n'y a pas le truc de Taous, tu vois.
Dans les trucs qui se bonifient avec le temps, tu as le rhum arrangé, les pickles, tu peux faire des cornichons. Il faut voir après si c'est des choses qui plaisent vraiment à ton entourage. Mais oui, là, comme ça, je suis en train de me dire, puisque tu as une grosse mode autour des aliments en fermentation, tu peux être cette vieille grand-mère, tu sais, qui va blinder les armoires de ça.
Je remplis un cellier entier de conserves. Comme ça, voilà, vous n'allez pas m'oublier avant 30 ans, les potes. Vous n'aurez pas le choix, vous allez me bouffer jusqu'à la mort.
La choucroute aussi, je crois que ça peut fonctionner. Il faut acheter une grosse barrique et puis...
Je pense qu'au bout d'un moment, tu dois vraiment en avoir marre de la choucroute. Hein, mais
En fait, ce serait marrant que finalement nos entourages puissent se souvenir de nous avec beaucoup de tendresse et un peu d'énervement aussi. Genre, oh là là, c'est pas possible cette choucroute. On n'en viendra jamais à bout.
C'est clair. Je pense que ce serait plus un truc comme ça pour moi que j'imagine, parce que je me vois pas trop en mère nourricière traditionnelle, c'est pas trop mon modèle. Après, comme je te dis, on sait jamais, hein, je vais voir comment je vais évoluer, je vais être obligée de lui faire à manger à cette gosse, donc ça se trouve je vais y prendre beaucoup de plaisir et ça va être génial. Mais pour l'instant, en tout cas, je me visualise plus comme un « ah putain, c'était sympa ce qu'elle a fait, hein, mais on en a marre ».
Et alors oui, donc t'as commencé un peu à nous l'expliquer tout à l'heure. Donc avec Mortel, tu as pu aussi voir de près différents rituels à travers le monde. Donc des rituels et des rites liés à la mort. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a touché, qui t'a marqué ou...
J'avais bien aimé ce qui nous avait été raconté par la mère d'Ashley Tola, la productrice. Qui disait qu'il y avait donc effectivement une grande veillée funèbre avec une grande fête, comme dans beaucoup de cultures, quand quelqu'un mourait, et qu'on faisait son plat préféré qu'on lui posait sur le ventre. On pose une assiette sur le ventre du défunt avant d'en manger nous-mêmes. Hein, et cette idée de faire le lien, et parce que je pense que c'est très important aussi... ce que je disais tout à l'heure, d'arrêter de mettre la mort sous le tapis et de faire comme si elle n'existait pas, ça passe aussi par ne pas oublier qu'il y a un corps. Avant d'en disposer, il y a une dépouille, il y a un corps. Et même s'il n'est plus habité, je trouve que c'est une belle chose de l'honorer quand même, plutôt que de faire cacher ce cadavre que je ne saurais voir. Alors, ce n'est pas toujours facile d'y être confronté, évidemment, mais quand on le peut et quand on le veut... Je trouve que c'est chouette de l'incorporer dans les rites funéraires. Alors après, imaginez un enterrement à la française avec quelqu'un qui pose un plat d'andouillette sur tonton Marcel qui est décédé. Je t'avouerais que j'ai du mal à le visualiser. Je trouve que ça ne va pas trop avec la culture française qui est telle qu'on l'imagine. Mais ça peut changer, pourquoi pas, tu vois.
Ouais.
Peut-être pas aussi radicalement, mais en tout cas, s'approcher de plus en plus de choses... on a forcément moins peur de quelque chose quand on y est confronté et quand on le voit en face, plutôt que quand on le fantasme et que c'est caché, quoi.
À J'aime ce que dit Taous à propos de la démystification de la mort. Faire la lumière sur une chose que l'on a collectivement associée aux ténèbres, c'est aussi mieux l'appréhender, s'y préparer avec sérénité, apprendre à l'accueillir, être outillé pour y faire face le moment venu. C'est aussi ce qui se joue avec Halloween, qui célèbre la fin de la moisson, un moment où reviennent les esprits des morts. Dans son article publié sur Science et Avenir, Marine Benoît décortique cette fête aux origines prétendument celtiques. Car en se penchant sur les travaux de l'historien britannique Eric Hobsbawm, on comprend que certains pans de l'histoire auraient été façonnés au XVIIe et au XVIIIe siècle pour renforcer une identité culturelle commune au Royaume-Uni. Après s'être entretenue avec l'archéologue spécialiste de la civilisation gauloise Jean-Louis Bruno, Marine Benoît fait un état des lieux de ce qui s'apparente à l'invention d'une tradition dans ce passionnant article dont on vous glisse le lien en description de l'épisode. Au micro de Bouffon, elle nous en dit plus.
Halloween, originellement, on attribue ça à une fête païenne, enfin une fête celtique, au sens large du terme. Donc c'est très vague finalement, les origines d'Halloween, voilà, on dit c'est une fête celtique, anglo-celtique à la limite, qui se nommait Samhain ou Samhain, et qui finalement était le passage de la saison claire, qui était l'été, à la saison sombre, qui était l'hiver. Donc elle marquait le début de l'année, c'était un commencement. Et les Celtes n'avaient que, soi-disant, que deux saisons. Donc c'était ce passage qui correspondait à une ouverture du monde des vivants aussi sur le monde des morts. Donc cette nuit-là, puisque ça se passait la nuit, c'était des calendriers lunaires. On comptait avec les nuits. Cette nuit-là, les vivants pouvaient communiquer avec les morts ou avec les dieux et inversement. Donc finalement, le sas était ouvert. On raconte que les festivités, elles, duraient non pas une seule nuit, mais 7 jours, bien que la nuit en elle-même, ce soit le jour de Samhain. On raconte qu'il y avait de grands banquets gargantuesques, qu'on mangeait, qu'on célébrait, qu'on sacrifiait aussi, donc des bêtes. Alors on raconte aussi que c'était une célébration obligatoire, hein, dans toute société à rite druidique. Et finalement que c'était une parenthèse temporelle, au point qu'on mettait entre parenthèses aussi, enfin que les conflits se suspendaient, donc les combats, mais aussi les travaux agraires. Voilà, donc en somme, une nuit un peu mystique qui mélange les âmes divines, les morts et les vivants. Donc tout ça, c'est quand même un décor assez, qui en jette. Et finalement, on raconte donc que progressivement, c'est devenu Halloween, que ça a été exporté, donc c'est venu du monde anglo-saxon et irlandais, et ça a été exporté aux États-Unis. Donc c'est une célébration qui est propre aux sociétés anglo-saxonnes, hein, mais aujourd'hui qu'on connaît surtout via les Américains, qui a été exporté outre-Atlantique, et qui progressivement est devenue cette fameuse fête d'Halloween, voilà, qui précède la Toussaint.
Donc ça, c'est un peu la mythologie telle qu'on l'a en tête, telle qu'on la raconte souvent.
Exactement. Sauf que, oui, je me suis entretenue avec un chercheur qui s'appelle Jean-Louis Bruno, qui est un archéologue, qui est français, et qui est aussi spécialiste de la civilisation gauloise et des mondes celtes. Et donc, il m'a expliqué que finalement, celte, ça voulait pas dire grand-chose, puisque, en tout cas, ça voulait a priori pas dire les peuples irlandais. Mais que le terme de celte désignait finalement la Gaule, les peuples gaulois. Et que cette fête de Samhain, elle n'est absolument pas présente dans le monde gaulois. On n'a aucune trace de son existence et de sa célébration, finalement. Même si on suppose que cette fête-là existait un peu dans toutes les civilisations, mais à aucun moment il est prouvé qu'elle est reliée directement à ce nom-là de Samhain dans la société celte gauloise.
Et alors, comment on peut expliquer que ces deux idées, donc, de fête celtique et de Halloween soient autant associées dans l'imaginaire collectif?
On considère aujourd'hui que Samhain pourrait faire partie de ce qu'on appelle les inventions de l'histoire, donc qui sont des traditions finalement qui ont été un peu montées de toutes pièces, inventées au XVIIe et XVIIIe siècle, particulièrement dans au Royaume-Uni, enfin dans le monde anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni n'était pas si uni que ça. et que c'était plutôt les Anglais qui vivaient dans de bonnes conditions et les Irlandais étaient un peu laissés pour compte. Et donc, on a inventé finalement un héritage culturel, historique aux Irlandais. Et la fête de Samhain pourrait faire partie de ces créations un peu pittoresques qui venaient pour renforcer le lien social et l'identité d'un peuple, en fait.
Pour donner une épaisseur historique, en fait, voilà. À un groupe de
exactement.
Personnes, une communauté.
Exactement. Mais alors, c'est des choses qui sont étudiées. Il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur ces inventions de la tradition au Royaume-Uni. En France, il y en a quelques-uns. Et malgré tout, c'est difficile parce que on a peu de sources aussi. On peut difficilement remonter finalement aux origines de Samhain. Et donc, démêler le vrai du faux, c'est souvent particulièrement ardu pour ces chercheurs. Finalement, la meilleure origine qu'on connaisse à Samhain, c'est cette invention des traditions qui se situe au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc oui, donc Samhain, c'est une fête irlandaise, mais en fait, on n'a aucune source historique qui indique que c'était quelque chose qui existait chez les Gaulois et donc chez les Celtes. On sait qu'elle existait, on pense qu'elle existait un peu dans toutes les civilisations d'Europe. Mais l'attribuer aux Celtes, c'est une dérive des historiens qu'on appelle celtisants du 19e siècle qui ont importé la fête de Samhain en France par le biais d'un mois qui s'appelle Samonios. Et c'est un mois qui est mentionné sur une pièce archéologique qui s'appelle le calendrier de Coligny qu'on peut voir au musée de Lyon. Qui est en fait composé de grandes plaques de bronze sur lesquelles sont écrites des inscriptions, parfois difficilement lisibles, et qui correspondraient à un calendrier gaulois du début de notre ère. Et donc sur ces plaques de bronze est écrit le mot Samonios, et donc finalement c'est comme ça qu'on a attribué Samhain aux Celtes, donc aux Gaulois, via ce calendrier, cette pièce archéologique.
Et dans tout ça, alors cette histoire de citrouille, comment elle a débarqué ?
Alors, donc, malgré tout, donc, on considère que les Irlandais finissent avec cet héritage culturel de Samhain, donc sont convaincus que leurs ancêtres, il y a 3000 ans, fêtaient ce soir-là voilà, l'ouverture des portes du monde des vivants sur le monde des morts. Et donc, ont transporté avec eux ce bagage folklorique de l'autre côté de l'Atlantique pendant la colonisation américaine. Vu que les Irlandais sont partis en masse hein, sur le continent américain, nord-américain. Et donc, c'est une tradition qui s'est tout simplement importée là-bas et qui a fini par devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Malgré tout, la citrouille, elle n'est pas née comme ça. Il y a une vraie légende autour de la citrouille qu'on appelle la légende de Jack aux lanternes ou Jack à la lanterne. Voilà, qui prend racine, elle, qui naît au milieu du 19e siècle. Donc 12 siècles plus tard, on est environ entre 1845 et 1851. L'Irlande vit une grave famine. Donc de nombreux citoyens irlandais traversent l'Atlantique. Donc ce bagage de Samhain a été transporté de génération en génération et est devenu la fête de All Hallows Even, donc qui est la contraction de la fête de tous les saints ou du soir de tous les saints, the Evening of All Saints, donc All Hallows Even qui est devenu Halloween.
Mmh, d'accord.
Voilà, et donc ils transportent cette célébration aux États-Unis et l'associent encore très largement à un personnage donc, qui s'appelle le personnage de Jack aux lanternes. De ce personnage, on trouve des traces dès 1750 hein, dans les écrits. Alors, c'est qui ce Jack aux lanternes ? C'est un type qui est pas très sympathique, qui est un ivrogne, qui visiblement est mesquin, a mené une mauvaise vie, qui était de profession maréchal ferrant. Et il meurt. Et les portes du paradis restent fermées pour lui, vu qu'il ne méritait pas qu'elles s'ouvrent pour lui. Donc finalement il est condamné à rebrousser chemin et à aller voir de l'autre côté donc du côté des enfers, mais il s'était un petit peu joué du diable aussi de son vivant, et donc le diable aussi lui ferme les portes des enfers, donc il est finalement condamné à errer dans le noir avec pour seule source de lumière un navet creusé dans lequel brûlait une bougie.
Alors, un navet, pas une citrouille.
Un navet, pas une citrouille. C'est devenu une citrouille pour la simple et bonne raison que c'était un légume plus volumineux et plus tendre et donc plus facile à creuser. Voilà, et qui se prêtait plus finalement à la décoration qu'un pauvre petit navet.
Et donc j'imagine que quand il a fallu remplacer ce navet par quelque chose de plus pratique, vu la saison, on s'est dit une citrouille.
Exactement, bah, c'était donc la saison des courges, hein, donc une citrouille avec tout son beau volume de pulpe à l'intérieur était beaucoup plus simple à sculpter. Voilà comment on en est arrivé là. Donc on doit indirectement cette tradition de la citrouille à ce personnage... C'est un infâme Jack. Et donc, oui, sa lanterne n'était pas une citrouille, en l'occurrence.
Finalement, quel est vraiment le lien qu'il y a entre Samhain et la légende de Jack à la lanterne ?
Eh bien, Jack à la lanterne est tout simplement mort un 31 octobre. Et donc, en fait, ce conte est indissociable de la fête de Halloween.
Quand est-ce qu'on se revoit, Marine, pour essayer de sculpter un navet ?
Quand tu veux. Quand tu veux. Je ne l'ai jamais fait. J'aimerais vraiment essayer un jour. Je pense que c'est compliqué.
Peut-être que ce serait ça le truc le plus nerd, tu vois, à propos de Halloween, c'est de pas sculpter une citrouille, mais vraiment un navet.
Oui, revenir aux origines, vraies origines d'Halloween.
Ouais, c'est ça. Et poser ça sur ta cheminée et voir qui de tes invités ne trouve pas ça choquant du tout.
Surtout en France. On n'est pas très Halloween en réalité en France. Mais enfin, des marques ont essayé de faire en sorte qu'on le soit. Alors, j'ai appris une petite anecdote récemment. Bon, dire qu'Halloween n'était pas fêté avant cette date-là en France est pas entièrement vrai. Mais c'est précisément Orange, donc qui était France Télécom, en 97, qui va mener une grosse opération de com pour vendre son téléphone Ola, pour ceux qui s'en souviennent, de couleur orange, qui était une édition spéciale. À cette période de l'année, donc à Halloween. Donc, ils montent toute une OP spéciale Halloween pour vendre ce téléphone Ola et ils vont installer au Trocadéro 8000 citrouilles.
Ah ouais, voilà. D'accord.
Et donc, on raconte aujourd'hui que c'est Orange, France Télécom, qui a essayé à coup de gros budget d'installer cette fête en France.
Ah ouais, de faire rentrer vraiment cette fête dans nos habitudes.
Exactement, pour mieux vendre un téléphone. Mais ça n'a pas vraiment pris. Après, d'autres marques ont fait la même chose. C'est quand même une occasion en or, d'un point de vue commercial, pour les marques. Voilà.
Si vous voulez poursuivre une plongée dans les ténèbres, je ne peux que vous recommander le génial podcast de Marine Benoît qui s'appelle In Tenebris et qui, à chaque épisode, je cite, revient sur un fait réel troublant restant à ce jour un mystère. Vous pouvez également retrouver Mortel, le livre de Taous Merakchi qui vient de sortir aux éditions Marabout et dans lequel on trouve bien plus encore que le contenu déjà très riche de son podcast. La discussion qu'on a eue avec Taous à propos du lien entre la mort et la nourriture me fait également penser à la dernière newsletter de la journaliste états-unienne Alicia Kennedy, qui raconte, à propos de son frère qui a choisi de se donner la mort il y a 4 ans, « Quand j'écris sur lui, c'est toujours à travers l'angle de la nourriture, alors qu'il n'aimait même pas spécialement ça à manger. » Alicia Kennedy est autrice culinaire, alors sa façon de penser le monde passe toujours par la matrice de la nourriture. Les rêves qu'elle fait à propos de son frère sont souvent torturés, sauf celui dans lequel elle discute avec lui lors d'un barbecue. C'est là encore une illustration qu'on pense toujours la mort depuis notre position de vivant, et donc d'êtres humains qui se nourrissent pour vivre. Merci à Marine Benoît, que j'ai connue chez Mashable avec France 24, qu'on a également enterré ensemble, et à Taous Merakchi, que j'ai rencontré chez Mademoiselle, première génération de rédactrice, ce qui ne nous rajeunit pas. Deux copines et anciennes collègues, c'était l'autre thème de cet épisode, à part Halloween. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Clara Maté. Montage par Marine Rowe, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.